Si tu fermes la porte, on va ouvrir. Ça y est, tu mets un peu d'eau dedans. Bien, écoutez, je vais vous rappeler très rapidement l'analyse qu'on a eue la semaine dernière et que nous allons prendre comme point de départ, comme une des lignes de lecture de l'ensemble du récit concernant les 10 générations qui vont de Adam jusqu'au déluge. Alors, vous rappelez que nous avons découvert avec la naissance de Caïn et Abel la définition venant de la Torah de la fondation, du fondement de ce que je vous ai appelé le fait social, la société, c'est-à-dire dès que deux sujets humains sont en relation, c'est déjà plus que l'embryon d'une société, c'est la société elle-même. Et nous avons vu qu'il y a deux sujets humains radicalement différents par rapport au problème moral. C'est-à-dire là, je crois qu'il faut une petite analyse préalable. Dans la culture occidentale, on est habitué à une idée abstraite de l'égalité absolue de toutes les personnes, de tous les sujets, comme s'il y avait une équivalence totale. Pas seulement formelle, de dignité formelle, mais d'identité, on dit en français, anthropologique. Ça veut dire que les sujets humains, par définition, sont égaux. Égaux dans tous les sens du terme. Et ce qu'on a découvert dans la manière dont la Torah nous raconte, nous fait assister à la naissance de Caïn et de Abel, c'est qu'il y a deux manières d'être homme radicalement différentes par rapport au problème moral. Est-ce que c'est nécessaire que je rappelle cela en détail? Vous avez déjà en mémoire ce qu'on a analysé la dernière fois. C'est-à-dire, du point de vue de la définition sujet de la moralité, personne humaine donnée au problème moral, Caïn et Abel sont deux êtres radicalement différents. L'un est réfractaire par nature. Réfractaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. D'ailleurs, on apprendra tout à l'heure, peut-être dans un autre cours, qu'en fin de compte, le premier homme qui a fait tchouva, c'est Caïn. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, il n'a même pas encore fauté. C'est-à-dire Caïn a fait tchouva avant Adam Arishon. Adam Arishon a appris qu'on pouvait faire tchouva de Caïn. C'est une chose peu connue, mais que le Midrash montre très, très clairement. Nous allons voir qu'il est rebelle à l'idée de la tchouva, mais en fin de compte, il va faire tchouva. Une tchouva un peu pshara, pas la vraie tchouva, il faudrait attendre David Améler. Bon, c'est notre sujet. Je reviens au problème. Par le fait qu'il est né le premier, la prise de conscience qu'il a de lui-même le rend réfractaire. Je ne veux pas dire rebelle dans le sens total, absolu, définitif, il n'y a pas d'espoir, mais ça lui est plus que difficile de découvrir la nécessité de la vertu. Et nous avons déjà appris en passant, mais j'aurai peut-être l'occasion, ou j'aurai dans d'autres cours peut-être l'occasion de revenir, quelle est la définition de la vertu, quel est le fondement de la valeur morale, de l'obligation morale d'après l'enseignement de la Torah. Et sa finalité, c'est à quoi sert la vertu. Elle n'est évidemment pas gratuite. Et du point de vue de l'enseignement de la Torah, la vertu, c'est ce qui nous donne, c'est ce qui nous fait acquérir le mérite d'avoir été créé. Je vous annonce simplement ce sujet-là, pour qu'il reste en filigrane, on l'étudiera pour lui-même, lorsqu'on explore toutes les philosophies possibles et imaginables que l'histoire de la culture humaine a essayé de produire concernant ce problème, qu'on appelle le fondement de la valeur morale, le fondement de l'obligation morale. Qu'est-ce qui fait qu'une obligation morale se présente vraiment comme une obligation, tout simplement? Et alors, on pourra explorer toutes ces doctrines, on verra que la pensée humaine est incapable d'arriver à trouver par elle-même ce qui fait que le bien, c'est le bien. Et alors, peut-être j'ouvre une petite parenthèse là pour éclairer cela, et vous avez tous ces systèmes de morale qui réduisent, c'est un phénomène qu'on appelle en logique, réduire un concept à un autre concept. Ils réduisent l'idée du bien à une autre valeur. Je vous donne un exemple. Nous avons entendu parler de la morale pragmatique. Les pragmatistes anglais, par exemple. Les utilitaristes, on les appelle. Eh bien, ils réduisent la notion du bien à la notion de l'utile. Avec un raisonnement de cette manière, un raisonnement de ce type, qu'est-ce que c'est que le bien ? Qu'est-ce qui définit cette qualité particulière de l'expérience que j'ai quand je rencontre un devoir moral? C'est bien de faire cela, et donc l'inverse c'est mal, au contraire. Eh bien, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est utile. Ça fait partie d'une sensibilité particulière, d'une conception du monde particulière, qui est très anglo-saxonne d'ailleurs. On pourrait appeler ça la morale de Gadget. Et pourquoi ? Et on pourra prendre d'autres exemples. Et il faut inverser le problème. Il arrive que ce qui est utile soit bien, mais ce qui est bien n'est pas forcément utile. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, on cherche à vendre la valeur du bien, et alors on cherche dans la mode culturelle du temps, dans l'évidence culturelle du temps, ce qui est accessible, ce qui est admis, ce qui est acquis. Si par exemple on se trouve dans une société où le critère c'est l'utilité, ce qui sert à quelque chose, alors le philosophe va trouver une stratégie pour faire passer sa morale. Il va dire, ben vous savez, la chose la plus utile, c'est encore le bien. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire qu'il a bien conscience que le bien et l'utile, c'est deux réalités différentes, mais pour pouvoir faire passer ces valeurs du bien dont tout le monde pressent qu'elles sont importantes, l'obligation morale, la vertu, le devoir, mais on ne sait pas les fonder, qu'est-ce qui fait que le bien, c'est bien ? Alors on cherche le critère de ce qui est à la mode. Je ne sais pas si j'ai suffisamment expliqué cela. Par exemple, vous avez des morales qu'on appelle des morales rationalistes. Ce qui est bien, c'est ce qui est le raisonnable. On veut dire en réalité le rationnel, mais disons la raison pratique, le raisonnable. Et alors bon, dans un milieu de sensibilité culturelle où c'est le raisonnable qui est la mode, alors on dirait, bien, vous savez, il n'y a rien de plus raisonnable que le bien. Est-ce que pour vendre la marchandise du bien, est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est réduit à autre chose. Et alors vous avez tous les systèmes de morale possibles d'imaginer. L'enseignement de la Torah est très clair. Il faut mériter d'avoir été créé. C'est le sentiment moral, c'est le sentiment que la créature a d'elle-même en tant que créature. J'ai reçu l'être en grâce de création, il faut le mériter. Et donc la morale, ça sert à quelque chose d'important métaphysiquement. Je vous donne un exemple. Ça met le sort de la destinée en jeu. Si vous essayez de définir la notion de vertu ou de faute dans un milieu religieux, dans un milieu non religieux, alors vous voyez une différence de nature. Dans un milieu non religieux, c'est grave une faute, mais pas plus. Ça veut dire que ça dérange un ordre. Quel ordre ? L'ordre de l'utilité, l'ordre social, de la légalité sociale, l'ordre du raisonnable, du rationnel. Ça dérange un ordre, mais pas plus. Tandis que pour une conscience religieuse, ça prend une dimension de profondeur beaucoup plus importante. Ça met en jeu le fait d'avoir été créé. Ce qu'on pourrait appeler, on parle français, c'est un peu pauvre dans ces questions, mais vraiment, on pourrait appeler le sens de la destinée. Je vais aller un peu plus loin, si c'est suffisamment clair. Mais il y a une différence de tonalité, des choses dont on parle en employant les mêmes mots, mais qui ont un sens différent suivant le milieu, suivant le postulat culturel du milieu. Et il est évident que ce qu'on appelle un chidoni, si vous voulez, les gens qui s'appellent athées, en admettant qu'ils savent ce qu'ils veulent dire, on ne peut pas nier qu'ils ont un sens moral et qu'ils parlent de la morale et que pour eux la morale est importante. Mais qu'est-ce que c'est pour eux la morale ? C'est un certain ordre qui a sa valeur propre et qu'il ne faut pas déranger. Et si on le dérange, il y a une faute. Mais pas plus. Est-ce que c'est clair ? Je vous dirais peut-être un sens étymologique de ce que dans la culture occidentale, on a substitué à la morale vraiment. Ça va être le problème auquel on va être occupé pendant ces 10 générations. C'est la notion de politesse dans le sens étymologique que ce mot a en français. Ça vient d'un mot grec qui signifie la manière de se conduire dans la cité. En grec, le mot de polis, en grec, pas en français, ça veut dire la cité. La police, c'est l'organisation de la cité. Et alors, on renonce à la morale parce qu'on ne sait pas la fonder. Mais on ne peut pas nier que ça a une valeur quelconque, on va la réduire à ce qui semble être le plus utile dans la mode culturelle du temps, encore une fois. Et alors, c'est en général la notion de politesse qui se substitue à la notion de moralité telle qu'elle est perçue dans le monde de la révélation biblique. La morale, c'est la monnaie par laquelle on va acheter le droit d'avoir été créé. Et j'emploie intentionnellement ce langage-là. La Gemara dit « Kana olamo bechara ». Ça veut dire avec une heure de vertu, on peut acquérir son monde. Retenez bien cette idée de kinyan. Notre monde nous est donné par matana, par grâce. Il faut transformer ce cadeau matana en kinyan, en acquis. Qu'est-ce qui permet d'acquérir ? Et en cela, on accomplit la volonté du Créateur, parce qu'il a voulu me donner, c'est pour que ça m'appartienne. Et tant que ça ne m'appartient pas vraiment, il ne m'a pas donné. Sa volonté n'est pas réalisée. Est-ce que c'est clair ? Et vous avez comme exemple l'étude de la Torah. La Torah nous est déjà donnée comme matana, ça s'appelle matan Torah. Et il faut transformer cette matana en kinyan, ça s'appelle kinyan Torah. Et par quel moyen on transforme le don de la Torah en acquis de Torah? Par l'étude. Le limoud, c'est ce qui permet de transformer la matana en kinyan. Et bien si vous prenez cela comme exemple, la vertu en général, c'est ce qui permet de transformer la matana en kinyan, et donc accomplir le projet du Créateur. Et là, la morale a une finalité ontologique, une finalité absolue. C'est pas que c'est un certain ordre qu'il faut pas déranger, chacun s'ingénie à expliquer, suivant la mode du temps, que c'est l'ordre de la société, l'ordre de la raison, l'ordre de l'utilité, le plaisir, le bonheur, si vous voulez. Ça veut pas dire qu'on va pas récupérer tout ça. Il y a des mitzvot aussi concernant ces ordres-là, et ça fait partie de la vraie morale. Mais on a réduit le bien à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas fonder quelque chose de bien. Alors, je vous dis, qu'est-ce que c'est clair? Je dis en philosophie, bien sûr. Je vais donc donner là un principe important. Il s'agit d'acquérir le droit d'avoir été créé, le droit d'être, par soi-même, devant le Créateur. Je vous donne tout de suite le problème de fond que la Chassidoute a beaucoup étudié, mais il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure entre les petites vertus que je peux effectuer et ce que j'ai à payer, l'être, l'absolu. Est-ce que vous comprenez la question? On risque d'être pris d'orgueil, de croire comment les petites mitzvot que j'ai faites, ma asymptomie, ma béa quotidienne, ça va me payer ce dont je parle, le fait que j'ai été créé. Vous vous rendez compte, ça n'est pas le poids. Okay? Vous comprenez la question? Je vous mets deux enseignements à ce sujet. L'un, c'est une histoire chassidique qui est très jolie. Et vous savez, quand on cite souvent les enseignements chassidiques, c'est déjà dans le Midrash. Mais c'est la forme que le chassidique a menée qui est jolie. Il ne faut jamais dire de Midrash qu'il est joli, c'est plus sérieux que ça. Et l'autre, mais de joli aussi. Et alors, cette histoire raconte ceci. Il y a un roi qui avait un de ses sujets qu'il aimait beaucoup. Il a demandé qu'un jour, le sujet en question, on va inventer que c'est un roi juif et que le sujet était juif, l'invite un vendredi soir. L'invite un vendredi soir. Bon, alors, affolement, panique dans la maison du juif, le roi. Et alors, les chalotes, les bougies, il n'y avait pas d'argent. Et il faut une nappe blanche. Ils se sont arrangés, finalement, comme un juif s'arrange, et ils ont eu un vendredi soir, une nappe blanche, deux chalotes, des bougies. Et puis, voilà que le cortège du roi arrive, et il y a les serviteurs du roi, précèdent, un énorme cortège, avec d'énormes chandeliers, des cierges sabbatiques, des chalotes merveilleuses, ils s'avancent devant le roi. Alors le juif se dit, chic, je vais recevoir le roi avec ça. Il enlève ses bougies, il enlève ses chalotes, il installe le grand chandelier, le roi rentre, et il se met en colère. Il dit, comment? Je me fais inviter chez toi, tu ne me reçois pas. Il dit, comment je ne te reçois pas? Tu ne vois pas ce que tes sujets ont envoyé pour toi? Il dit, ça c'est à moi. Ce que je voulais, c'est tes bougies à toi, tes chalotes. J'ai imposé comme tout le monde. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, on ne sait pas soi-même de la valeur que peuvent avoir les petites vertus que nous avons, parce que c'est cela que Dieu nous a demandé. Donc lui, il sait pourquoi ça a de la valeur. C'est une première histoire, c'est clair? Deuxièmement, un autre enseignement qui va tirer dans le même sens, et qu'on explique comme ça. Il y avait un jour un roi, attendez, je vous donne les détails, sinon je vous le dirai abstraitement, mais j'ai préféré le raconter. Qui avait fait un contrat avec un de ses serviteurs, que à chaque manquement de la loi, il recevrait un coup de bâton, mais qu'on lui donnerait une pièce de monnaie. Et alors, finalement, il y a eu un des serviteurs qui avait beaucoup de pièces de monnaie, alors qu'il en avait très peu. Et alors, les pièces de monnaie, c'est quoi? C'est un métal, ersatz, qui représente une valeur réelle. Et cette valeur réelle, par exemple, vous prenez un billet de banque, vous allez à la banque, c'est du papier, vous allez à la banque et vous demandez, vous avez le droit d'ailleurs d'après la loi française, je ne sais pas d'après la loi israélienne, l'équivalent en or dans la Banque de France, okay, il y a l'équivalent en or. Donc le papier lui-même, il ne vaut rien. La pièce de monnaie en cuivre, elle ne vaut rien. Mais elle représente une valeur qu'on pourrait changer si on allait à la banque. C'est clair? Alors quand le roi est revenu du voyage, parce que c'était un roi en voyage, un roi super, alors il a dit, montrez-moi qu'est-ce que vous avez reçu comme monnaie. Alors celui qui avait gardé peu de pièces de monnaie a eu peu de diamants au change. Celui qui en avait beaucoup, il en a eu beaucoup. Alors celui qui en avait beaucoup, il s'est dit, c'est mis après la poterie. Ah, s'ils avaient su, j'aurais reçu tous les coups de bâton qu'on m'aurait donné, rien que pour avoir ces petites pièces de monnaie. Bon, vous avez compris dans comment je fais. C'est-à-dire, un jour, on va changer ces petites valeurs d'en bas avec la valeur qui correspond en haut. Et c'est là qu'on verra quelle valeur ça avait. C'est une autre histoire qui va dans le même sens. C'est clair, c'est clair. Donc, vous apprenez ça dans la Gemara, les Pachim Ktanim. Vous savez, il y a une indication dans le Shulchan Aruch. Un juif est économe de sa petite monnaie. Vous savez ça, c'est pas qu'il est avare, il est économe de sa petite monnaie. Parce qu'un juif a conscience que l'argent qu'il a, il l'a gagné, alors il le gaspille. Et ça serait bien ça, c'est les Pachim Ktanim de Yaakov. Vous vous rappelez tout ce que vous avez fait. Alors, les petites choses qu'il croit que ça n'a pas de valeur, finalement, quand ça sera changé avec les valeurs correspondantes, on verra quelle valeur ça a. Bon, pour revenir à la notion principale, c'est que, quelle est la finalité de la moralité? C'est de nous permettre d'acquérir le mérite d'être. Donc, c'est ça le sens religieux de la morale. Pourquoi cette voix qui me parle dans un devoir a une telle force? Qu'est-ce qui parle dans cette voix? C'est pas la voix de la société, c'est pas la voix de la raison, c'est pas la voix des conseils d'utilité, de tout ce que vous voudrez, l'envie du plaisir, de tout ce que vous voudrez. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la volonté du Créateur qui m'a créé et qui demande que je me mérite. Ça peut être dit de manière différente. L'essentiel, c'est l'idée qu'il y a là. C'est-à-dire, ce qui est mis en jeu, c'est la destinée de l'être humain. Une fois qu'on a bien compris cela, alors il ne faut pas rentrer en panique. C'est clair. Parce que si c'est si sérieux que ça, alors c'est trop sérieux. Et on risque d'être en panique. Et beaucoup de conscience capitule devant cette entreprise à cause du vertige. Quoi, c'est si important que ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Alors là, je vais faire une petite analyse. C'est pourquoi il ne faut pas oublier que ce que dit la Torah dans tout ce qu'elle dit. Je veux dire, il ne faut pas isoler kavlakav tzavlatzav, isoler tel enseignement, et alors s'il n'est pas relié aux autres, il ne peut pas être compris. C'est tout ensemble. Je veux dire, il y a une tendance qui consiste à présenter ce problème comme vertigineux. Pourquoi? Parce qu'on a un juge impitoyable qui va régler les comptes. Mais on oublie que ce juge, c'est le Père. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Vous avez compris? C'est-à-dire, si on oublie que la Torah, c'est la volonté de quelqu'un, c'est pas une loi impersonnelle qui juge mécaniquement, impitoyablement, imperturbablement, alors si on oublie ça, on tombe dans cette panique qui fait que, on a dû certainement dans certains milieux, pas seulement chez les juifs, ça c'est une tendance de la psychologie de l'homme tout simplement, on arrive à devenir complètement fou, c'est-à-dire on tombe dans une maniaquerie de minutie, de scrupulite. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'on est devant le Père qui a créé ses enfants, et pas devant un juge impitoyable derrière sa toge romaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi le judaïsme, en tout cas européen, doit énormément de choses à la chassidoute. Parce que c'est la chassidoute qui a restitué cela qu'on risquait d'oublier. Et parce qu'il y a si longtemps que les prophètes ont arrêté de parler, vous savez, 2600 ans, c'est long. Et alors les prophètes parlaient du Père qui est le juge, et à la limite, on a oublié que le juge, c'est le Père. Est-ce que c'est clair? Alors je sais très bien que les problèmes, les rapports entre enfants et parents, c'est les problèmes de la situation moderne. Ne faites pas des analogies familiales. Okay, je pense que vous avez compris qu'il y a une raison pour laquelle la tradition nomme Dieu créateur Père, Av Arahman, tout de suite. Est-ce que c'est clair? Alors si on oublie ça, on ne peut pas s'en sortir avec la Torah. C'est-à-dire, est-ce que c'est clair? Je cite souvent, parce qu'on risque d'être devant une loi de type impersonnel à la manière de la loi romaine. C'est la loi romaine qui est comme ça, qui a pris le modèle de la loi mathématique en morale. Est-ce que c'est clair ce jeu? Alors devant la loi mathématique, on est perdu, parce que 2 et 2, ça fait 4, qu'on le veuille ou pas. Tandis que devant la loi morale, on n'est pas perdu. On peut faire tchoua, on peut disputer, parce que c'est la volonté de quelqu'un. Rappelez Abraham Avinu, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit à propos de Sodome et Gomorrhe? Ce chapitre-là, il faudra étudier. Et c'est pas simple. Dit à chauffer pour la vertu, là il y a assez mishpat. Ça veut dire quand Dieu lui annonce la catastrophe de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que dit Abraham? Est-ce que le juge de toute la terre ne ferait pas un jugement? Et qui c'est qui fait un jugement? Vous croyez que c'est une machine électronique juridique qui fait un jugement? C'est une conscience qui fait un jugement, c'est une volonté qui fait un jugement. La volonté de qui? De celui qui nous a créés. Si on ne retrouve pas le caractère religieux de la Torah, c'est plus la Torah. Et c'est ça le caractère religieux. Et que la chassidoute a réintroduit dans une atmosphère culturelle qui risquait d'avoir oublié. On avait substitué un livre au créateur. Alors il y avait les gens qui avaient l'Ira de Shamaïm et ceux qui avaient l'Ira de Shamaïm. Vous connaissez avoir peur d'un livre. Je ne sais pas si vous en êtes compte. C'est terrible d'avoir peur d'un livre. Parce qu'avec un livre, on ne discute pas. C'est écrit comme ça et pas autrement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pourquoi il y a une grande règle. Je vais vous expliquer ça, même si ça a l'air hors sujet finalement, mais c'est toujours le même sujet. C'est dans Bava Kamma que celui qui déduit une halakha de la Mishnah est appelé destructeur du monde. On ne déduit pas une halakha de la Mishnah. Il faut passer par la Gemara jusqu'à nous, c'est-à-dire demander au Dayan Aharon qu'est-ce que veut dire cette Mishnah pour nous. Est-ce que c'est clair pour vous? Et j'ai entendu de mes maîtres, déjà quand j'étais au Talmud Torah, que de notre temps, celui qui déduit une halakha du Shulchan Aruch écrit, c'est comme s'il déduisait de la Mishnah. Regardez comme on est déjà tout petit. Ça veut dire qu'il faut demander au Dayan du temps comment on applique cette. Si on se prend cet orgueil avec son sechel, son dictionnaire et un livre de dire moi je vais décider qu'est-ce que le livre a dit, ça veut dire qu'on n'est pas croyant de la Torah. Ça veut dire qu'on est croyant d'une loi à la romaine. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et y a la clause du Shulchan Aruch, c'est que quand le Dayan n'est pas là, Shrat Hatchak, comme on dit ça en français, cas d'urgence, on peut voir dans le livre comment c'est dit. Mais c'est vraiment exceptionnel, cas d'urgence ou tolérance. Okay? Bon, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, il doit y avoir une raison dans la salle, mais en tout cas, on en a parlé, je referme la parenthèse. Alors, ça veut dire que la vertu a un fondement total, absolu, c'est comme cela que l'homme de la Torah a perçu le problème moral. Et vous comprenez pourquoi les philosophes qui tentent de traiter la moralité sont complètement perdus, déboussolés, je ne sais pas comment dire, perdus, ils n'arrivent pas à trouver le critère du bien. Qu'est-ce qui fait que le bien, c'est le bien? Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié qu'ils sont des créatures. Est-ce que c'est clair? Bon, là, ça risque de nous faire basculer dans un tout autre sujet, alors je m'arrête et je reviens au sujet du coup. Bon, vous avez compris ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est l'orgueil de croire « j'ai pas été créé, j'existe par moi-même ». Eh bien, ça, c'est caïd. Vous voyez, je remets en évidence le terme principal qui était dans le verset. Il n'a pas à envisager d'avoir à acquérir le mérite d'être, il se connaît comme acquis, déjà, par nature. Vous vous rappelez ce que Chava avait dit quand il est né, « Kaniti ish et Hashem ». Qu'est-ce que ça veut dire Caïn? L'homme qui se connaissant se connaît comme déjà acquis. Et ça veut dire qu'il n'est pas sensible au tzorer, à la nécessité, à la finalité de la vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu dans notre problème? C'est faire une place à l'autre. Qui c'est l'autre? Son frère. Qui vient en plus, qui se trouve là en plus dans le monde de Caïn. Alors vous vous rappelez des formules que j'avais proposées? Le problème moral pour Caïn, c'est faire une place à Abel. Alors que Abel, lui, est né, par le fait qu'il est né comme frère, il est frère par essence. Il est capable d'être frère. Quand la Torah nous dit, va tous être l'aider de ta fille, et elle ajoute à enfanter son frère, ce n'est pas une indication d'état civil. Elle ajoute à enfanter, et par le fait que cet autre, enfanté de plus et de plus, alors il est frère. Parce qu'il est né en plus, il est capable d'être frère. Et donc l'accès, la relation à la morale pour Abel est naturellement beaucoup plus facile. Et pourtant il échoue. Pourquoi? Parce que le problème moral pour lui, eh bien c'est pas de faire une place à son frère. Son frère a toute la place. C'est d'éduquer son frère. Voilà ce qui se dévoile dans ce récit. Il y a deux lignées humaines différentes. Les hommes qui sont hommes à la manière de Caïn, ils ont un problème moral à résoudre qui est difficile pour eux. De la manière dont ils se connaissent, c'est de reconnaître la dignité d'autrui. C'est clair, traduit pas, c'est pas le fait. Ça, c'est le problème de Caïn. Et puis, il y a une autre lignée qui pourrait être, ça va de soi, qu'il faut mériter d'être par la vertu, qu'il faut être vertueux. On se sent, on se sait, en plus de l'être vraiment qui est celui qui a donné l'être. Et il faut acquérir le droit d'être. Le droit d'être. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes choses fondamentales. Et donc, quel est le problème moral pour Abel? C'est d'être frère, c'est-à-dire de fraterniser son frère, de l'éduquer. C'est le rôle du berger, c'est le rôle du Kohen, à la limite. C'est clair? Alors, ça, je crois que c'est très important. Pour arriver à aborder cet enseignement de la Torah, il faut se débarrasser de cette pseudo-évidence, de ce pseudo-principe de l'égalité des personnes. La relation intersubjective n'est pas univoque. On ne peut pas additionner des personnes. On peut dire deux pommes plus deux pommes, ça fait quatre pommes. On ne peut pas dire deux hommes, ça fait quatre hommes. Parce que l'identité humaine, ça ne se quantifie pas. C'est comme ça qu'on dit, se quantifier. Okay, on n'additionne pas des qualités. Un homme est irremplaçable. Demandez à une fiancée si on peut lui remplacer son fiancé. Un homme, c'est un homme. Eh bien non. Est-ce que c'est quelque chose de lui? Ça va même très loin. Elle n'acceptera même pas qu'on lui. On lui remplace le mouchoir qu'il lui avait donné, un sort de clair de lune. Et pour ce mouchoir, c'est un mouchoir. Mais oui, dès que la qualité apparaît, ça n'a plus rien à voir. Vous avez compris? Je vous avais signalé, je ne sais pas une fois, peut-être c'est pas à vous, en hébreu, il y a deux mots qui se ressemblent. C'est shavé, shin vavé, et shav, shin vavavé. Ça veut dire, s'il y a deux choses égales, il y en a une qui est vaine. Shavé, ça veut dire égal, shav, ça veut dire vain. Tout est vain. Et alors, je crois qu'il y a dans la formule de base, la formule de base de la Révolution française, comment on appelle ça le... Non. La Constitution française. Tout homme est né. Égaux
en droit.
Égaux en droit et encore un autre mot. Peu importe, il suffit de égaux. Okay? Alors, si c'est au niveau d'une égalité de dignité morale, okay, c'est très clair. C'est ça que la Torah parle. Mais égaux en droit, qu'est-ce qu'ils ont de droit? Si encore ils disaient égaux en devoir. Okay? Vous savez d'ailleurs qu'il y a un grand principe. Qui est la tarte à la crème de la moralité contemporaine, c'est les droits de l'homme. Et, vous connaissez cette expression, les droits de l'homme. Okay? Et c'est une expression qui n'existe pas dans l'enseignement naturel. Il y a les devoirs de l'homme. Parce que tu as beau réclamer tes droits, si l'autre ne ressent pas le devoir de te reconnaître tes droits, eh bien ils ne sont pas droits. Okay? C'est clair? La Torah met l'accent sur le devoir. Si j'accomplis mon devoir vis-à-vis de l'autre et que c'est réciproque, alors les droits de chacun sont garantis. Sinon, tu as beau réclamer tes droits et faux droits. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est une notion fausse. D'abord, au nom de quoi? Droit de quoi? Et réfléchissez bien à ça. Hein? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable, hein? Qu'il faut lutter pour les droits de l'homme. Mais il ne faut pas se laisser avoir par les formules. Je vais raconter comment, dans ma vie personnelle, j'ai ressenti cela. Qu'il y avait là une formule fausse. Une formule fausse et qui fausse complètement la vie de la société dans la culture occidentale. Personne n'est égal à personne, même pas en droit. C'est faux. Et disons, comme disait Montesquieu, je crois, dans l'esprit des lois, c'est la formule la moins fausse. Mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je vais vous dire comment je m'en suis arrivé. Quand j'étais à l'armée, de l'armée française, comme, je ne sais pas si vous savez, mais un juif mange cachère, donc je ne mangeais pas au réfugié. Et alors, on avait droit à ce qu'on appelait le préfranc. Qu'est-ce que c'est le préfranc? Une somme d'argent équivalent au repas pour les soldats. Mais il y avait donc, on touchait le préfranc et on débrouillait comme on pouvait. S'il y avait des sardines, on achetait des sardines. Et là, mais il y en avait qui avaient droit à deux préfrancs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une capacité stomacale différente. Ceux qui arrivaient à assouvir la faim d'un soldat français normal, eux, ils avaient encore faim. Alors, ils avaient droit à deux parts. Et peut-être c'est un peu trop, deux. Non, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est artificiel de projeter le monde de la quantité là où il s'agit de la qualité. La formule de la révolution russe, de la révolution socialiste, est beaucoup plus proche de la Torah. Je vous étonne. C'est à chacun suivant ses besoins. C'est tout à fait différent. Est-ce que c'est clair? Là, il y a plus de justice. Bon, je ferme la parenthèse, simplement pour indiquer cela. C'est que dans tous les cas, il faut comprendre que selon le récit de la Torah, eh bien, la Torah dira à chacun suivant ses mérites, hein, que je comprends. Mais enfin, c'est certainement la formule de la révolution socialiste est plus séduisante pour un juif que cette formule abstraite, philosophique, bourgeoise de la révolution française, qui est fausse théoriquement. Regardez à quel point on se laisse prendre au miroir aux alouettes. Okay, c'est tellement séduisant qu'on croit que c'est vrai. Mais c'est faux. Personne n'est égal à personne. Sauf s'il s'agit d'un problème de dignité, d'ordre moral, toutes les créatures sont des créatures. Alors là, c'est un tout autre histoire. Bien, alors je reviens à notre question. Et étant donné qu'on a diagnostiqué ces deux identités humaines radicalement différentes par rapport au problème moral, et vous voyez, Caïn ne vit pas comme Abel. Abel ne vit pas comme Caïn. Il ne fonctionne pas de la même manière comme homme par rapport au problème moral. Spontanément, nous dit le verset, vous avez le verset sous les yeux, Vaihi Hevel Roetzo, puisque Hevel est ce qu'il est, par sa naissance, il devient berger. Qu'est-ce que c'est berger pour le récit de la Torah? Évidemment que la Torah, ce n'est pas le Virgile, le bucolique. C'est bien le Virgile, le bucolique. Et la Torah, c'est la Torah. Berger, ça veut dire celui qui s'occupe d'autrui. Vous voyez comment le frère devient berger, puis vous suivez la ligne de définition. Père, berger, pasteur, Cohen. À la limite, la notion du frère aîné que vous étudierez à un certain moment et qui est reliée à celle du Cohen, le Bechor.
C'est une situation
que vous voyez chez Réa. 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 Okay. Sémantiquement, ça. Sémantiquement, certainement. C'est très important de suivre cette ligne de lecture de toute la Bible, toute la Tanakh. On cherche qui est capable d'être berger. C'est avec lui que Dieu contracte l'alliance. Vous avez remarqué ça? Dans la littérature des évangiles, on cherche un tout autre type d'homme, des pêcheurs. Vous avez vu les évangiles? Okay. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Ceux qui sont capables de pêcher. Des pêcheurs. Bien, alors je reviens au problème. Pêcheurs d'âme. Et nous allons voir le dégagement de ce postulat. Cette civilisation qui a été fondée par l'équation qu'on va tout de suite découvrir dans le texte, qu'on a supprimé l'existence d'autrui, Caïn a tué Abel et va fonder une civilisation basée sur le principe de la suppression de la dignité d'autrui. Et la Torah va nous décrire ce qui arrive d'une civilisation qui est fondée sur ce postulat. C'est les 10 générations de la civilisation humaine, entre Adam et Rishon jusqu'au déluge, à travers Caïn. Par les 10 générations de notre lignée de Jeth, qu'on découvrira assez rapidement. Alors, la ligne de lecture que je choisis habituellement, qui me semble la plus efficace, disons, pour pénétrer dans ce sujet, c'est de faire cette découverte que le récit est assez paradoxal dès le début. On va apprendre que Caïn va supprimer Abel. Et là, il éclate une espèce de scandale. C'est que Caïn va être protégé par un sursis que Dieu va lui donner. Vous avez dû remarquer ça avec du récit. On va voir de quelle nature est ce sursis. On va voir qu'il y a toute une série de sursis supplémentaires jusqu'à épuisement de la patience de Dieu dans ce jugement, jusqu'à ce que le déluge arrive. Mais il faut comprendre pourquoi, alors qu'il semble qu'il y ait échec, il y a quand même un sursis. Vous comprenez le terme de sursis? On va suspendre la sanction en donnant du temps dans l'espérance que ça puisse s'arranger, et que ça se restaure. Et donc, c'est qu'a priori, il est nécessaire qu'il y ait un jugement de vérité. Ça veut dire qu'a priori, il n'est pas évident que Caïn doive être considéré comme coupable, puisqu'il est en sursis. Il faut qu'il y ait un jugement qui dévoile s'il est coupable ou pas. Je vais vous dire tout de suite quel est le verset qui indique ce sursis. C'est le verset 6, dans les minutes. Nous sommes dans le chapitre 4, okay. Et je vais vous expliquer cela, et très rapidement, on reviendra après eux. C'est très bien. Non, c'est pas le chapitre 4, c'est pas le verset. Quel verset je vous ai dit? Chapitre 4, quel? C'est le verset 15 du chapitre 4. Lorsque Caïn, après avoir tué Abel, découvre la faute qu'il a faite, il la découvre après, a posteriori, quand c'est trop tard, quand elle est faite, alors Dieu va lui donner un sursis de protection. Voilà ce que dit le verset. Vayomer le Hachem, et Dieu lui dit, la reine, c'est pourquoi, Koloren Caïn, Shivataim Yukam, tout celui qui tuera Caïn, il sera vengé cette fois. Et ça, j'expliquerai d'autre part. Voyez, c'est Machem le Caïn Pot. Et Dieu plaça sur Caïn un signe, les bilti yakototo kolmatsa, afin que ne le frappe pas, on a ça juste ici maintenant, que ne le frappe pas quiconque le rencontrerait. Bon, on ne va pas étudier la question, qui peut le rencontrer, il n'y a personne d'autre. C'est une autre question. Mais le Midrash dit, ben, les bêtes sauvages. La justice immanente, ça travaille à travers n'importe quoi. Une tuile qui tombe, qui tombe du toit. Mais ce qu'on découvre, c'est que Dieu protège Caïn a posteriori de ce qui s'est passé. On aurait pu supposer un tout autre récit. Caïn a échoué, eh bien il est puni. Immédiatement. Je ne sais plus comment on dit. Puni immédiatement. Non, il y a un sursis qui l'est. Alors je vais raconter le Midrash sur ce sursis et nous reviendrons à la scène quelle est la raison pour laquelle Caïn a tué Abel. Mais qu'il soit clair que cette civilisation est fondée sur la suppression du frère. Vous remarquerez que le mot de frère va disparaître du récit dès que Caïn a tué Abel. On ne parle plus de frère. Ce mot ne reviendra qu'avec Abraham. Et dès qu'Abraham entre dans le récit, alors le mot de frère entre à profusion. Frère, sœur. Mais il y a deux exceptions que je vous indiquerai dans le texte et qui s'expliquent. Ça veut dire l'être frère disparaît, il est assassiné. Et alors le Midrash dit, voilà, quel signe Dieu a mis sur Caïn? Il a écrit sur son front le mot Emet, qui veut dire la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que la vérité dise qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Caïn était assassin? Ou est-ce que Caïn était justicier? Il a puni un mauvais berger. Parce qu'en fin de compte, si Caïn n'a pas été éduqué, c'est parce qu'il n'a pas été éduqué. Et qui pouvait l'éduquer? C'était son frère. C'est clair? Alors le Midrash restitue les dialogues entre Caïn et Abel dont le texte ne parle pas. Le texte dit qu'ils se sont parlé. Mais le texte ne dit pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Le Midrash restitue cela. En fin de compte, il va s'avérer, et je voudrais être très clair, il va s'avérer que Caïn était vraiment assassin et que Abel était vraiment innocent. Mais pour le moment, il faut découvrir pourquoi Caïn bénéficie d'un sursis. Parce qu'a priori, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Est-ce que c'est clair? Je vous montrerai d'ailleurs dans beaucoup de versets, il y a une allusion à cela. C'est que peut-être que Abel n'a pas su jouer son rôle, alors il est puni de cela. Et donc que Caïn n'est pas vraiment assassin, mais bourreau, c'est différent, justicier. Qu'est-ce qui se passe dans l'acte? Un homme tue un autre. Mais de quoi s'agit-il? Si c'est sur l'échafaud, le bourreau qui tue un criminel, eh bien c'est pas un assassin, c'est un justicier. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne sait pas. Il faut que la vérité.
Sauf quand il est assassin, c'est couvert
de la faute. C'est ça, assassin. Okay. C'est-à-dire, comme dit je ne sais plus qui, nous sommes tous des assassins. Je reviens à l'analyse. Il va s'avérer que Caïn était vraiment assassin, mais comment? Alors, l'histoire que raconte le Midrash, on retrouvera plusieurs versets plus bas, peut-être pas déjà aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui va sortir de cette identité-là. On s'aperçoit qu'en fin de compte, va naître un descendant de Caïn que la Torah appelle Tuval Caïn. Et que la Torah explique qu'il était l'ancêtre, l'initiateur des forgerons, ceux qui sont capables de fabriquer les outils. Et que, vous suivez? Et que, en fabriquant les outils, Tuval Caïn a fabriqué la première arme. Voilà. Alors c'est là que le destin de Caïn est scellé. Si dans la descendance de Caïn, il y a le premier fabricant des armes, qui va fonder les armes de la guerre, vous savez, Tuval Caïn, en hébreu, vous avez un nom très analogue dans la mythologie grecque, c'est Vulcain le forgeron. Vous voyez, vous écrivez Vulcain, Tuval Caïn. Vous voyez que les Grecs étaient des pillards de Midrash. Alors, en fabriquant les outils, justification de l'industrie dans la société, eh bien, ils fabriquent des armes. Marcel Zassou. Et alors, et vous savez, c'est quand les diplomates vous parle de la nécessité ou de l'industrie formidable pour faire marcher l'économie française. Okay. Vous connaissez ça. Donc, c'est tout à fait ça. Tout à fait ce midrash. Alors, le midrash va prendre acte. La descendance de Caïn, c'est des fabricants d'armes, donc il était assassin. C'est-à-dire une civilisation qui s'est fondée sur la suppression d'autrui, qui a supprimé le problème moral, pour lui substituer le problème social, j'en parlerai tout à l'heure, de l'administration de la société, ça n'a plus rien à voir avec la morale, eh bien ça veut dire que le fondateur d'une telle civilisation, c'est un assassin. Qui c'est qui l'a condamné? Son descendant, en fabriquant les premières armes, sous la Libye qui fabriquait les outils. Alors quand il est venu là, vous allez voir, juste le midrash là, il dit que ça c'était un arc qu'il a fondé. Et alors, Tubal-Caïn demande à son père Lémer, qui était aveugle, le premier poète, on en parlera comment on y arrivera, de l'accompagner dans la forêt pour essayer son arc. Imaginez un jeune homme de 20 et quelques années, qui trouve le premier arc avec une flèche. Vous avez déjà vu des gosses jouer à ça. Alors il demande à son père de l'accompagner dans la forêt pour tirer la première flèche. Aujourd'hui on tire des fusées, mais enfin c'est à un autre niveau. Et alors Lémer l'accompagne dans la forêt, et le midrash raconte, il voit au loin passer une forme. Il croyait que c'était un animal, c'était Caïn. C'est le stade des civilisations où on se croit descendant d'animaux. C'est là que ça arrive. Et alors, il voit Caïn sur la lisière de la forêt, il croit que c'est un animal, il tire la flèche. Et la flèche arrive sur le front de Caïn et efface le mot de l'aleph du mot de Aimé. Il est resté net. Il en est mort. Ça veut dire que c'est la vérité qui a jugé qu'est-ce qu'était Caïn. Et Caïn était vraiment assassin. Et regardez ce qui se passe dans le midrash. La première arme a tué le premier assassin. Voilà comment le cercle se referme. Alors cette civilisation est perdue. C'est très, très inquiétant, parce que nous sommes très exactement dans la civilisation occidentale à un stade analogue. Cette civilisation a été fondée par Rome. Et vous connaissez dans la mythologie romaine le mythe de Rémulus et Romulus. Romulus et Rémus, deux jumeaux, comme par hasard, et un qui tue l'autre, et ça fonde la société, mais les Romains s'en félicitent. Voilà. C'est l'acte fondateur de la cité. Et de cette civilisation romaine, où le frère a tué le frère, mais c'est ça qu'il faut faire pour fonder la société, est sortie de la loi romaine, mais est sortie surtout Marcel Dassault, c'est-à-dire les fabricants d'armes. Vous voyez que c'est très très parallèle à ce qu'enseigne le Midrash. Il n'y a pas de doute que la civilisation romaine, et c'est la civilisation occidentale, comme on l'appelle, actuelle, des sociétés de droit romain, qui a substitué le droit légal à la morale et qui a fondé sa cité sur la suppression d'autrui, qui a substitué, encore une fois, la légalité juridique à la moralité et qui finit par fabriquer les armes qui risquent de faire sauter la planète, tout simplement. Alors tout ça est déjà dans ce récit de Caïn et Abel, et vous voyez pourquoi, à travers l'histoire, la grande lutte spirituelle, ça a été entre Rome et Jérusalem. Okay. Ou bien, nous sommes les hommes du livre qui parlent de Caïn et Abel, et ce qu'a fait Caïn en tuant Abel, c'est le mal, ou bien il s'agit des hommes de Rome, la cité a été fondée par le meurtre du frère par le frère, nourri du lait de l'ouvre, vous vous rappelez de cela, okay. Et ça c'est le bien de fonder la cité. C'est comme ça qu'on fonde la cité. Alors il en résulte la Pax Romana, que c'est la guerre, l'art de la guerre. Et les Romains, c'est des martiens, des martiaux, okay. Mars, la guerre. Okay. Et alors, c'est eux qui sont emparés de la Bible pour en faire le christianisme, et on est en train de régler les comptes. Okay. Mais vous voyez comment à l'origine, il y a deux conceptions différentes de la fondation de la cité. Et deux visions du monde radicalement différentes. D'un côté, finalement, ça mène au judaïsme, de l'autre côté, ça mène à ce que vous savez. Alors maintenant, si c'est suffisamment clair, je reviens à la suite du récit. Comment la Torah nous raconte cette haine, cette jalousie, cette frustration, cette rivalité de Caïn qui le mène à supprimer Abel? Mais je tenais d'abord à mettre ça en évidence. Abel était en danger dans tous les cas chez Caïn. Tant que Caïn n'est pas éduqué, Abel est en danger. Tant que Abel ne gêne pas Caïn, Caïn lui laisse une place dans la bergerie. Okay. Mais dès que Abel devient gênant, et nous allons voir comment, avec la rivalité des offrandes, alors Caïn supprime Abel. Tout simplement. Tu me gênes, ça m'en va. Et la société est fondée sur encore une fois, l'équation de la suppression d'autrui. Nous allons suivre tous les niveaux de dégradation jusqu'au moment où on arrive au déluge. Et parallèlement, tous les sursis qui sont donnés par le Créateur qui pourraient permettre de se reprendre et comment ça échoue chaque fois. Et c'est pourquoi ça arrive à cette catastrophe énorme du déluge, à laquelle on ne se relie pas toujours comme il faudrait. Comme si c'est une idée. Il y a eu une humanité entière, elle était effacée par le déluge, c'était des méchants, d'avoir nous, et on continue. Non, c'est une catastrophe qui s'est produite. Et alors, pour qu'on en arrive à une catastrophe pareille, il fallait que les causes soient vraiment...